Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
Alors aujourd'hui, un épisode sur un livre qui s'appelle « Les fondamentaux de la cybersécurité » avec son auteur, Giuliano Ippoliti. Bonjour Giuliano.
Bonjour Nicolas, Hervé, Vladimir, bonjour à tous.
Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Vladimir Collin.
Bonjour.
Alors Giuliano, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Oui, avec plaisir. Donc, je suis ravi d'être avec vous. Donc, je m'appelle Giuliano Ippoliti. J'occupe actuellement le poste de directeur de la cybersécurité au sein d'un fournisseur de services cloud français. J'ai à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans la cybersécurité. Et j'ai une carrière parallèle de formateur. De formation, je suis ingénieur en télécommunication, donc je me suis diplômé en Italie, à l'université de Pise.
Alors, écrire un livre en 2025, c'est quand même pas évident. Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet ?
Alors, j'ai toujours été animé par le goût de partager mes connaissances. Je me suis rendu compte qu'un livre généraliste autour de la cybersécurité aurait pu rencontrer un public. Donc, j'ai collecté le matériel qui me semblait pertinent. J'essayais d'extraire la quintessence, on va dire, de mes années d'expérience dans la cybersécurité. Et puis, j'ai trouvé un éditeur.
C'est la démarche, elle vient totalement de toi à l'origine et ensuite tu as cherché un éditeur ou c'est un éditeur qui t'a contacté pour te proposer le sujet ? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont écrit des livres en cybersécurité qui ont été contactées par des éditeurs.
Alors, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. En fait, ce livre, Les fondamentaux de la cybersécurité, est mon deuxième livre. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Naviguer dans le monde professionnel, qui n'est pas lié à la cybersécurité, et qui reprend, on va dire, les choses que j'ai apprises au niveau professionnel, mais pas lié à la cybersécurité, tout ce qui est communication, management, relations interpersonnelles, gestion des compétences, etc. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai spammé, on va dire, une trentaine d'éditeurs. Et bon, il y en a un qui a accepté de me publier, et il y en a un autre qui m'a dit: ce projet ne m'intéresse pas. Par contre, j'ai vu que vous avez une expertise en cybersécurité. Est-ce que ça vous dirait d'écrire là-dessus ? Et pour le coup, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai répondu positivement.
Oui, il faut dire que c'est un éditeur pas très connu. Et je vois que dans la même collection, il y a des ouvrages tels que l'efficacité viking ou pensée marginale ou fonder et gérer son cabinet d'avocat. Donc ça, un petit clin d'œil à un contributeur de l'Unité Sécu qui se reconnaîtra.
Eh bien, ce n'est pas évident de trouver un éditeur qui publie à compte d'éditeur. En fait, c'est relativement facile de faire de l'auto-édition ou d'éditer à compte d'auteur. Et donc, je dirais que quand on trouve un éditeur qui est disposé à publier un ouvrage, on a tendance à ne pas être trop regardant. C'est déjà une victoire en soi de trouver un éditeur qui est désireux de publier.
Oui, puis si l'éditeur a investi pour publier l'ouvrage, il aura tout intérêt à investir pour le promouvoir, le distribuer correctement. Enfin, voilà.
Absolument.
Alors parlons un peu du contenu du livre. Tu as sélectionné 9 thèmes très différents les uns des autres. Bon, évidemment, il y a les concepts de base, mais par ailleurs, ça parle de cadre réglementaire, de gouvernance. Ensuite, tu vas parler de sécurité du cloud, de pentest, de social engineering que tu appelles le piratage psychologique. Comment est-ce que tu as choisi cette liste de thèmes ? Et surtout, est-ce qu'il y a des thèmes que tu as dû laisser de côté et que tu vas garder pour une deuxième édition ?
Donc, j'ai essayé de couvrir les domaines sur lesquels j'ai travaillé, donc les domaines qui m'ont été utiles dans mon parcours professionnel. Donc, ça englobe la sécurité organisationnelle et la sécurité technique. Et donc, à l'intérieur de chacune de ces deux familles de connaissances, j'ai identifié les sujets voilà, sur lesquels je travaillais le plus. Il y a un thème qui brille peut-être par son absence, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle. Donc, au moment de l'écriture, ce domaine n'était pas encore suffisamment mûr, probablement, pour y consacrer un chapitre entier. Mais si je devais écrire une suite du livre, c'est sûr que l'intelligence artificielle aura une place importante.
Après, sur l'IA, il y a quand même des attaques entre guillemets qui sont classiques, c'est fuite de données, injection, etc. Et par contre, est-ce que dans ton différents chapitres, j'ai l'impression que tu n'évoques pas la partie sécurité matérielle?
Oui, effectivement. C'est un domaine dans lequel j'ai moins d'expérience, en toute humilité, dans lequel je n'ai pas eu l'occasion de travailler. Sécurité physique un petit peu, mais sécurité matérielle, moins, effectivement.
Dans une deuxième édition, l'IA dans le matériel.
Il faut que je me forme là-dessus chez Hervé, préalablement, et puis que je pratique un peu.
IA et quantique, puisque c'est quand même les deux sujets de 2025.
Et blockchain. Non, c'est fini.
Oui, effectivement. Et oui, quantique, c'est sûr que... Alors, ça me passionne tout ce qui est lié à la cryptographie. Quand j'étais étudiant, j'étais vraiment passionné par les mathématiques. J'avais participé avec succès aux compétitions. Je ne suis pas parvenu à arriver aux Olympiades internationales de mathématiques et de physique, mais je m'étais quand même relativement bien classé à la finale nationale. Il faut dire que ce ne sont pas des notions que j'ai pratiquées plus que ça. Autour de mon parcours professionnel, mais ça sera avec grand plaisir de me repencher là-dessus, notamment autour des algorithmes de cryptographie post-quantique.
J'avoue que j'ai lu ton livre avec plaisir, parce que c'est un de ces livres qui parle d'informatique, mais qui ne fait pas en permanence des références à des sites externes, ou qui ne parle pas d'outils, ou de choses comme ça, et donc qui se lit dans le train, sans connexion Internet, et tout est contenu dans le livre. Bizarrement, il n'y a que deux ou trois outils que tu cites, donc Kali Linux, mais aussi Cryptomator, dont je n'avais jamais entendu parler avant. Quel a été le parti pris éditorial que tu as eu là-dessus? Est-ce que c'est un choix de ne pas citer d'outils, ou est-ce que c'est pour essayer de ne pas en favoriser un plutôt qu'un autre?
Sur l'outil en question, il s'agit d'un outil open source, donc quitte à citer des outils, je préfère citer des outils open source. Et ensuite, bon, c'est un outil qui n'est pas très connu, mais c'est un outil qui m'a bien rendu service au fil des années, donc ça m'a fait plaisir de lui accorder une mention dans le livre.
Je vois aussi que tu as abondamment cité les travaux de l'ANSI dans plein de domaines, y compris dans tout ce qui est gestion des risques et autres. Par contre, tu ne donnes pas de grande part... Enfin, la méthode de gestion des risques que tu préconises, c'est quand même l'ISO 27005.
Oui, c'est une bonne remarque, effectivement. Alors, j'ai été formé à l'ISO 27005, historiquement, donc c'est la méthode que j'ai pratiquée le plus dans mon métier. Et ensuite, dès qu'on s'est lancé avec mon entreprise dans la qualification Secnum Cloud, un petit peu pour faire plaisir à l'ANSI, effectivement, on a adopté la méthode EBIOS-RM que je connais, que je pratique. Et le fait de citer le guide de l'ANSI est probablement lié aussi au fait que j'ai été très exposé, on va dire, au contenu préparé par l'ANSI dans le cadre de la qualification Secnum Cloud. Donc, je suis bien imprégné de tout ça.
Oui, ça, parce que professionnellement, tu travailles beaucoup aussi sur Secnum Cloud pour d'autres raisons.
Oui, absolument. Donc, c'est un projet... Donc, je travaille pour le fournisseur Cloud Temple, qui est qualifié Secnum Cloud sur son offre IaaS depuis 2022. On a été les premiers à obtenir une qualification PAS. Et notre challenge... en ce moment, est de développer notre offre de IaaS basée sur des outils open source.
Oui, mais si tu n'avais pas cette expérience, est-ce que tu aurais autant citer les référentiels de la NSSI. Il n'y a pas des référentiels de l'équivalent italien de la NSSI ?
Alors, il existe bien une agence en Italie autour de la cybersécurité. Elle est beaucoup plus jeune que l'ANSSI, sûrement beaucoup moins influente. Mais paradoxalement, je dois vous dire que je n'ai jamais travaillé en Italie, en fait. Je me suis installé en France dès que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et donc...
Donc voilà, t'es lobotomisé au référentiel ANSSI, et donc ils sont dans ton livre.
Je suis bon élève.
Bon, enfin, après, tu cites le guide d'hygiène de l'ANSSI, par exemple, mais franchement, Hervé, tu connais d'autres documents de ce type-là qui sont au même niveau à la fois d'abstraction, qui sont pas trop haut, pas trop bas, et qui sont aussi clairs que soit tu as des docs de durcissement hyper techniques, hyper complexes, les trucs très très haut niveau, alors que ceux typiquement de l'ANSSI comme ça sont au bon niveau pour être compréhensibles par tout le monde. Soyons fiers aussi de ce que notre agence fait.
Ah, moi, je suis d'autant plus d'accord que je ne parle pas les langues étrangères. Donc, je peux te garantir que je n'ai pas lu les documents en italien, en espagnol, en japonais, en allemand ou en toute autre langue.
Alors, je ne sais pas ce que fait le BSI, mais en Angleterre, ils ont le Cyber Security Essentials et en Australie aussi, l'Australian Directorate, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, fait aussi un document.
Oui,
qui
il a été cité par quelqu'un qu'on avait interviewé.
Oui.
Pour la petite histoire, on vient d'obtenir la conformité au référentiel C5 du BSI et ça peut intéresser les auditeurs de savoir que le processus est complètement différent de celui qui existe en France pour SecNumCloud. Donc en SecNumCloud, l'ANSSI est derrière, elle suit complètement le processus de qualification, et c'est elle qui prononce la qualification à la fin. Alors qu'en Allemagne, le BSI, il s'en lave les mains, je dirais, il considère qu'on est conforme à C5 à partir du moment où il y a un cabinet d'audit qui a audité l'organisme, le fournisseur cloud, sur la base du référentiel C5, selon la méthodologie ISAE 3000, et qu'il en a conclu que le fournisseur est conforme. Donc le BSI ne maintient même pas un inventaire de fournisseurs qualifiés. T'as pas un inventaire officiel.
Et alors, pour en revenir au livre, et en particulier les thématiques que tu abordes, les thématiques qu'a cité Nico, à qui s'adresse le livre, selon toi? Parce qu'en fait, il est assez complet. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en cybersécurité le trouvera intéressant. Et quelqu'un qui s'y connaît en cybersécurité le trouvera également intéressant. Parce que c'est vrai que tu parles, tu as les premiers chapitres avec les critères DICP, enfin la base, et tu arrives après sur des guides de durcissement, sur les vulnérabilités à la sécurité offensive. Donc à la base, tu voulais l'adresser à qui?
Alors déjà, ce que tu remarques, Vladimir, ça me fait très plaisir. Parce que mon objectif était de toucher un public très large, en fait. Ça part des étudiants qui souhaitent perfectionner la cybersécurité, aux personnes, aux professionnels en reconversion qui sont intéressés par le démarrage d'une carrière dans la cybersécurité. Ça demande de la formation, bien sûr, mais un livre peut aider à mettre les pieds à l'étrier. Pourquoi pas des professionnels aussi qui souhaitent revoir leur base, s'assurer qu'ils n'ont pas de lacunes criantes, on va dire. J'ai eu des RSSI dans mon réseau qui l'ont lu et qui m'ont dit « Tiens, j'ai appris quand même quelque chose, même si je suis un professionnel expérimenté. » Donc, à la base, oui, il faut quand même avoir des notions en IT. Donc on va dire ça peut s'adresser potentiellement à tout professionnel de l'informatique qui souhaite perfectionner, mettre le pied à l'étrier, en tout cas, au niveau de la cybersécurité.
Est-ce que tu as eu des retours sur certaines recommandations ou est-ce que les gens ont discuté? Et bon, passons dans le vif du sujet, surtout les recommandations sur les mots de passe. Par exemple, tu recommandes de changer les mots de passe, de les faire expirer au moins une fois par an, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a eu des débats là-dessus? Est-ce que tu as eu des gens dans ton entourage proche ou des lecteurs qui t'ont contacté?
Alors, déjà, je dois avouer que je guette très régulièrement les commentaires qui sont laissés sur Amazon. Je regarde ça très régulièrement. Pour l'instant, je n'ai pas eu de lecteurs qui m'ont challengé C'est un mot français, c'est un mot franglais qui va déplaire à Hervé peut-être, mais qui m'ont titillé sur certains concepts. Donc pour l'instant, les seuls retours que j'ai eus sont des retours de lecteurs contents de l'ouvrage. Je n'ai que des revues à 5 étoiles pour l'instant, donc, mais je sais que il est certainement il y a des choses à redire. Et toi, Nicolas, tu mettais le doigt sur la recommandation de changer le mot de passe tous les ans, c'est ça?
Bah oui, et puis aussi sur la sélection d'un bon mot de passe. Tu parles d'installer Cracklib, par exemple, pour éviter que les utilisateurs choisissent des mots de passe trop triviaux. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faut recommander. Je pense qu'il faut mieux recommander des passphrases ou ce genre de choses plutôt qu'une complexité. En fait, il vaut mieux utiliser quatre mots du dictionnaire séparés par des espaces, comme le recommande XKCD, que de prendre un mot bidon et de rajouter un point d'exclamation à la fin pour, ou un chiffre ou l'année en cours pour le rendre plus complexe et passer
oui,
les règles.
On pourrait s'amuser à calculer l'entropie de mots de passe on peut le faire même en direct. Donc tu dis quatre mots du dictionnaire.
Tu ne pourras pas calculer l'entropie en direct parce que si tu rajoutes des caractères spéciaux, ça devient tout de suite compliqué. Il va te dire l'entropie élevée. Sauf qu'en fait, si tu fais des analyses statistiques sur les bases de mots de passe fuités, tu vois que les caractères spéciaux sont toujours les mêmes et au même endroit.
Oui, c'est vrai.
Et ça, les calculateurs entropie que tu trouves en ligne.
Pardon, je t'interromps.
Voilà, le point d'exclamation à la fin, c'est un grand classique.
À la fin. Et non, mais c'était amusé de calculer l'entropie là, de 4 mots de dictionnaire sur une langue avec 50 000 mots. Donc, logarithme en base 2 de 50 000 puissance 4, ça fait 62
mais
bits. C'est pas énorme.
Mais non, c'est la double authentification.
Oui, il y a le passwordless. Donc, personnellement, bah, j'utilise des clés matérielles avec empreinte digitale. Je trouve ça très, très bien. On n'a pas encore sauté le pas en entreprise, sauf dans des périmètres très sensibles, parce qu'il y a quand même une complexité de gestion. Il faut remplacer les clés perdues, etc. Mais oui, je te rejoins, Nicolas. Effectivement, on tend vers des systèmes passwordless, on va dire.
Enfin, tu auras toujours besoin d'un mot de passe. Hein. C'est-à-dire que tu as toujours quand même... un début, un moment, tu dois quand même saisir un mot de passe. Je pense qu'on s'en débarrassera jamais.
Je connais des systèmes où aujourd'hui, il n'y a pas de mot de passe et tu t'authentifies. À chaque fois que tu essaies de te loguer, en fait, tu reçois un code à usage unique par mail. Alors, ça vaut ce que ça vaut en termes de sécurité.
C'est-à-dire que tu as accès à ton mail.
Ah bah oui, mais
tu
une fois
dire,
que le
ah
mail...
Ah oui, mon mail, mais j'ai un OTP que je reçois sur mon téléphone. Ah oui, mais c'est-à-dire que tu as un téléphone. Donc, comment tu t'es authentifié sur ton téléphone à un moment? Il y a quand même un
non,
secret.
Bah c'est ton numéro de téléphone. Aujourd'hui, tu peux créer une adresse Gmail juste avec un 06.
Oui, mais c'est-à-dire que tu as un téléphone. C'est-à-dire que tu as quand même quelque chose qui permet de déverrouiller ton téléphone quand tu l'allumes, puisqu'aujourd'hui, ils sont tous chiffrés. Donc, tu as quand même à l'origine toujours un espèce de secret que tu as dans ta tête et que tu es obligé de saisir.
Oui, tu diras, parce que même avec la YubiKey, pour ne pas les citer, à un moment, oui, tu as le PIN de la YubiKey, au moins quand tu l'initialises. Mais en général, oui, il suffit de la brancher, de mettre son empreinte, il n'y a pas de mot de passe à saisir.
Oui.
Alors j'aurais une deuxième remarque sur le livre que je te fais en direct. Voilà. On n'en a pas parlé pendant la préparation de l'émission, mais c'est sur la partie pentest, où en fait qui est très orientée intrusion, test site web. Mais il y a toute une partie, et on pourrait écrire un bouquin très épais dessus, sur le test Active Directory, avec toutes les techniques qui existent aujourd'hui, Golden Ticket, Silver Ticket, je ne sais plus ce qu'il y a, Diamond Ticket, les potatoes en tout genre,
ADCS.
Etc.
Ouais, c'est vrai, j'ai pris le parti de montrer dans le livre un exemple assez linéaire de test d'intrusion sur un site web, et j'avoue aussi que c'est le domaine que je connais mieux. Sur la sécurité d'Active Directory, j'ai des notions de base, mais pas suffisamment poussées, je pense, pour en parler. J'estimais que je n'avais pas suffisamment d'expertise pour en parler dans mon ouvrage.
Et alors, j'ai une question sur la fin du livre, car tu ne cites pas Sun Tzu, mais tu donnes des citations latines. Est-ce que c'est tes origines italiennes qui parlent? Est-ce que... des citations, d'autres auraient donné des citations grecques.
C'est bien vu, Nicolas, effectivement, il y a un peu de ça, oui. Il faut savoir qu'en Italie, bon, moi j'ai fait un bac scientifique, mais même dans ce cursus-là, j'avais 3 ou 4 heures de latin par semaine, en fait, donc j'ai ingurgité pas mal de latin, et il y a quelque chose qui est resté. Donc en l'occurrence, comment j'ai sélectionné ces 25 citations? Eh bien, je suis tombé sur un livre de citations en latin, et pour chaque citation, j'ai identifié l'applicabilité éventuelle au domaine de la cybersécurité. Donc, ces 25 citations sont le distillé de ma lecture de ces livres.
Il manque la sécurité est un échec, mais je ne sais pas si c'est Platon ou Aristote qui l'avait
dit. Je sais que c'est toi, Nicolas. Je sais que t'as même déposé la marque, je crois, ou on te l'a offerte, je ne sais plus.
Alors, quels sont tes projets pour le futur? Est-ce que ce plan d'écrire un livre sur la cybersécurité, ça t'a donné des envies? Est-ce que tu veux, par exemple, je sais pas, collaborer avec des gens qui pourraient rajouter une partie sur Active Directory ou sur la cryptographie, même si apparemment tu as l'air d'être un expert dans le domaine?
Je dirais pas que c'est...
Est-ce qu'il va y avoir une deuxième édition?
Alors, je pense que vous m'entendrez jamais dire que je suis un expert dans un domaine. En fait, c'est tellement vaste que... Je pense que c'est important de rester humble et ouvert à l'apprentissage. Alors, cet ouvrage marche plutôt bien pour l'instant. Donc, l'éditeur me dit qu'il est en train de faire son petit chemin. Mais je dois avouer qu'en ce moment, je suis très focalisé sur mon métier principal. Parce qu'on essaye, voilà, au sein de mon entreprise, de vraiment développer, de nous développer en tant que fournisseur de cloud de confiance, souverain, crédible. Et c'est vraiment pas évident de rivaliser avec les géants que tout le monde connaît. Donc ça demande de l'énergie, beaucoup de focus. Donc la suite du livre n'est pas pour tout de suite, je dirais, mais pourquoi pas dans quelques années.
Est-ce que les contributeurs No Limit Sécu peuvent t'aider d'une manière ou d'une autre, autrement qu'en achetant ton livre?
Déjà, en invitant les auditeurs à l'acheter.
Ça fait plaisir, oui, merci Hervé. Je suis preneur de tout feedback de vos auditeurs. Toute critique est bonne à prendre, tant que ça reste dans le respect.
Mais plus sérieusement... Est-ce qu'il ne faut pas recommander aux profs, dans toutes les écoles, etc., de recommander à leurs étudiants?
Oui, alors je pense que c'est un livre qui se prête très bien à un programme scolaire autour de la cybersécurité. Donc, ce serait vraiment...
Oui, c'est-à-dire que moi, je vois tellement d'étudiants qui sortent de toutes ces nouvelles écoles avec un certain dire ça pour ceux qui nous écoutent, mais un certain manque de culture générale un peu globale. Et donc, je pense que voilà, les profs qui nous écoutent devraient recommander le livre de Giuliano à leurs étudiants. Et puis un livre, c'est vraiment pas cher.
Alors, la loi française m'oblige à dire que j'ai eu le livre gratuitement par l'auteur. Néanmoins, si nous avons sélectionné ce livre pour un épisode de podcast, c'est que je l'ai trouvé intéressant. Il fait 230 pages et il peut se lire en plusieurs fois. Chaque chapitre est indépendant et il couvre beaucoup de sujets de la cybersécurité.
Alors moi aussi, je dois avouer que l'auteur me l'a offert.
Ah oui. Mais tu sais, maintenant, avec toutes les influenceuses qui font n'importe quoi sur la blockchain, on est obligé, la loi a changé.
Hervé m'a tellement donné, c'était normal de lui envoyer ça en retour.
C'est trop.
Ah, il faut dire que j'ai ma première formation en cybersécurité, la date de... il y a plus d'une quinzaine d'années, c'était chez Hervé, donc... maintenant, je suis ravi d'être formateur.
Oui, comme vous voyez, ça l'a traumatisé. Hein.
Bon, en tout cas, je me suis efforcé de rendre le livre accessible. Donc, j'espère qu'il se lit plutôt bien. J'essaie d'éviter du jargon.
Mais ça t'a pris combien de temps, combien d'heures par semaine, pendant combien de temps pour y arriver? Parce que moi, je trouve ça toujours impressionnant, les gens qui arrivent à écrire un livre.
Alors, on va dire que donc ça m'a pris à peu près un an, avec un tout petit peu d'écriture tous les jours. Donc, on va dire que je compensais le manque de plages temporelles très longues pour écrire avec de la régularité. Donc, au petit déjeuner, au fait, pendant un an, je me suis efforcé d'écrire pendant 20 ou 30 minutes.
Ah oui, c'est impressionnant. Moi, j'en connais. En fait, ils ont dû mettre un coup de collier, partir en vacances pendant 3 semaines et faire que ça pendant 3 semaines.
Non, non,
là, c'était là. T'as réussi une demi-heure tous les jours. Putain, c'est... Félicitations. Hein.
Merci, Hervé. Ben oui, c'est la... la clé, on va dire. Ce qui m'a permis d'y arriver, c'est la régularité.
Ça me semble être une excellente conclusion, mais est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin?
Donc, j'étais ravi de discuter avec vous, Nicolas, Hervé, Vladimir. Et le mot de la fin pourrait être que la cybersécurité est un domaine magnifique parce qu'il impose d'être sans cesse dans l'apprentissage, de se cultiver sans arrêt. Et donc, quel qu'il soit le moyen d'apprentissage, que ce soit un livre, des vidéos, de formation, je vous invite à ne jamais arrêter de cultiver vos compétences, vos connaissances, et d'y prendre du plaisir.
Eh bien, c'était un excellent mot de la fin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à tous. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.